Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Grand Main vous fasse. Ce matin, on se demande si la philosophie peut nous aider à guérir les maux qui affligent notre corps. Un corps que l'on a souvent du mal à accepter, et pourtant, faute de mieux, il faut bien faire avec un visage plus ou moins banal, des kilos en trop, un corps qui se flétrit et vieillit, avec la maladie qui se profile, tapis dans l'ombre, et la mort qui nous attend tranquillement, cette mort qui a l'éternité devant elle, contrairement à nous autres humains. Mais vous le verrez, la philosophie peut nous aider à regarder avec lucidité avec force tous ces mots qui nous accablent. Nous attendons ce matin vos témoignages sur notre page Facebook. Nous invitons ce matin la professeure de philosophie Laurence de Villers et le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine Alexandre Lacroix. Ma complice ce matin, Guillemette Audicino. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Sonia. Et si jamais c'était du chiquet ?
Tu blasphèmes en reniant l'existence de Dieu. Si j'admets ta théorie selon laquelle Dieu n'existe pas et que l'homme a le droit d'agir en toute chose comme il le désire, je te demande à ce moment-là ce qui l'empêche de commettre un meurtre.
Mais le meurtre est immoral.
Et l'immoralité est subjective.
Ah oui, mais la subjectivité est objective.
Jamais dans le schéma rationnel de la perception.
La perception est irrationnelle, elle implique l'imminence.
Mais le jugement de tout système ou d'a priori relation de phénomène existe dans toute rationnelle ou métaphysique ou au moins épistémologique contradiction à un concept abstrait et empirique tel que par exemple être ou ne pas être ou encore intervenir à cause de la chose ou pour la chose elle-même.
Oui, comme ça au moins je comprends.
Un extrait de Guerre et Amour de Woody Allen en 1975. La philo, ce n'est pas que de grandes questions existentielles qui agitent l'âme. La philo peut aussi nous aider à vivre avec notre corps. Avec nous ce matin, deux invités. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali.
Rien à voir avec notre camarade Sonia de Villers, ça ne s'écrit pas pareil. Vous êtes agrégée et docteur en philosophie et vous publiez un ouvrage clair et accessible, absolument passionnant, Guérir la vie par la philosophie, au PUF. Bonjour Alexandre Lacroix.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, romancier, directeur du mensuel Philosophie Magazine, dernier ouvrage paru pour que la philosophie descende du ciel. Laurence de Villers, au début de votre ouvrage, vous écrivez que la majorité d'entre nous, vivre n'est pas un cadeau, mais une série de contraintes, de figures et d'horaires imposés. Bref, dans la vie, ma bonne dame, on fait avec ce qu'on a et surtout avec ce qu'on peut.
Oui, enfin, ça semble un peu, c'est une marchandise qu'on n'a pas tellement envie d'acheter, dit comme ça. Mais en fait, je crois que vous venez de décrire quelque chose de fondamental, de l'expérience qu'il y a à vivre sa vie. Alors, je dis pas le contenu de sa vie, les événements, mais qu'est-ce que c'est que vivre? Et la plupart du temps, fondamentalement, c'est faire avec. Ce qui veut dire, en réalité, faire sans. Sans l'éternité, sans le bonheur, sans l'amour très souvent. On dit généralement, je sais pas comment je pourrais vivre sans, et en fait on ne fait que ça, vivre sans.
Et pour vous, la vie n'est pas un sport de glisse?
Non, c'est pas un sport de glisse, parce que ça, il y a un moment dans La Nausée de Sartre, son personnage dit « Ah, c'est ça, exister, se laisser aller à exister, rien que ça ». C'est beau, c'est léger, donc on a l'impression que c'est une bulle qui flotte dans l'éther. Et je trouve que de nos jours, il y a ce côté-là, on a l'impression qu'il faudrait partir à la conquête ou à l'exploration de ce bonheur infini qui aurait à simplement exister. Comme un sport de glisse, il suffirait de se laisser aller, puis on glisse. Je crois que ça n'existe pas. C'est pas ça, être et exister.
Question fondamentale, la philo peut-elle vraiment nous aider à vivre et surtout à survivre?
Ouais, alors, c'est deux questions, hein. Je pense que la philosophie n'est pas du tout un art de l'inutile. Elle a pu parfois se décrire comme une activité gratuite, qui n'a pas de but précis. Moi, je pense qu'en réalité, c'est une discipline ménagère, fonctionnelle, et qu'elle nous aide à vivre au sens fort. C'est-à-dire, pas seulement comme une béquille ou un pansement, ce qu'elle peut être aussi, mais je pense qu'elle va plus loin, elle nous dit ce que c'est que vivre. Dit comme ça paraît un peu inutile, le matin j'ai pas besoin de savoir ce que c'est que vivre. Je pense qu'on vit pas si on sait pas ce que c'est que vivre. Et puis survivre, c'est encore autre chose. C'est la philosophie en temps de pénurie. Parce que la vie est souvent, peut-être pas un désert, mais pas l'abondance. Donc oui, c'est souvent un champ en jachère ou qui est pas très fertile. Et là, je suis d'accord avec vous et j'ai l'impression que c'est ça qui vous intéresse. La philosophie comme art utile de la survie. Oui.
Alexandre Lacroix.
Sur cette question, oui, alors, Effectivement, il y a quand j'entends ça, c'est-à-dire l'idée que la philosophie peut nous guérir, soigner nos maux, il y a un paysan en moi qui rigole un peu. Enfin, je vais expliquer. C'est-à-dire que ma grand-mère, qui avait son certificat d'études, mais dans un milieu rural, voilà, qui gardait les animaux quand elle était jeune, me disait de temps en temps quand j'étais adolescent, mais arrête de lire comme ça, ça va te retourner la tête. Mmh. Et elle avait absolument raison. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour moi quand j'ai découvert la philosophie à l'adolescence, à 16 ans, le choc de la rencontre avec Nietzsche, ça a été terrible. C'est-à-dire, il m'a complètement retourné. Mmh. Il m'a possédé et habité à tel point que j'ai été quasiment déscolarisé au début de la terminale, que je fichais plus rien, que j'allais plus en cours, que je me suis mis à essayer de devenir un Nietzschéen pratiquant. Vous savez, comme il y a des chrétiens pratiquants et donc à faire toutes sortes de bêtises.
Par exemple.
Embrasser un cheval dans la rue. Ouais. Ça c'est Nietzsche.
J'aurais presque honte de le dire au micro. J'ai écrit un roman là-dessus qui s'appelle Quand j'étais Nietzschéen et toutes les bêtises qu'un adolescent peut faire, d'actes de vandalisme, d'intervenir, de faire des happenings dans les messes à Notre-Dame en hurlant par exemple et bientôt c'est vous qui serez Dieu. Enfin ce genre de choses, vous voyez, tout de cracher dans les bénitiers, enfin
il y a prescription. Hein.
Il y a prescription. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que effectivement, la philosophie, le contact avec la philosophie, c'est quelque chose qui vous empoigne, qui peut vous rendre malade, qui peut vous rendre fou, qui peut vous faire sombrer pour une période dans ce que Hegel appelait la misologie, c'est-à-dire le discours de la haine, le discours de la haine du monde. Donc c'est un poison quand même, ou un alcool. Voilà. Est-ce qu'on doit mettre la philosophie dans l'armoire à pharmacie? J'ai un doute.
Laurence de Villers, depuis 2500 ans, on se demande en Occident si la philo peut être un médecin de l'âme, mais peut-elle être une médecine du corps?
Alors, la philosophie elle-même s'est définie dès le départ comme médecine, et Nietzsche est le dernier à se définir comme un médecin et médecin de la culture. Donc c'est une des définitions de la philosophie qui est même plus prégnante que celle d'amour de la sagesse. Médecine de l'âme, on peut comprendre. On se dit, bah oui, la philosophie, elle va soigner mes états d'âme, entre la dépression et mes grandes questions, où vais-je, qui suis-je, etc. Moi, j'ai voulu commencer le livre par les maux du corps, parce que justement, avec un bon sens peut-être paysan, j'ai voulu montrer que la philosophie, elle emploie les questions les plus concrètes, et que c'est pas parce qu'elle est abstraite qu'elle peut pas être une pratique. C'est tout le contraire. Et que, aussi, la chose la plus difficile à vivre et qui nous tombe dessus, qui est même presque d'une certaine façon déjà là avant qu'on vive, c'est notre corps. C'est la tête que j'ai.
Pourquoi la philosophie peut-elle nous apporter santé et guérison? Alors, jusqu'à preuve du contraire, la lecture de Socrate ou de Spinoza n'a jamais guéri d'une maladie.
Alors, ça c'est la bonne question. Il y a une première étape qui peut être décevante, qui ressemble à ce que Alexandre disait de la philosophie comme alcool et alcool fort. Et je pense que c'est le cas. Je pense qu'on a essayé de l'édulcorer pour en faire quelque chose de plus passe-partout. Et je pense qu'elle est réticente. Elle se laisse pas faire. Je pense qu'il y a une première étape où la philosophie aggrave les choses. Elle aggrave les choses parce qu'elle met en lumière le fait qu'il y a un arbitraire absolu. Des choses auxquelles je dois consentir et qui n'ont pas demandé mon consentement. Et ça commence par mon corps, la tête que j'ai. Et que j'aurai, même si j'essaie de rafistoler un peu les choses, ce physique-là, je l'ai pour toujours et je ne l'ai pas choisi. Donc la période, ce moment où la philosophie aggrave les choses, c'est cette épreuve de cruauté lucide. Vous savez, Antonin Artaud disait, il y a la peste, la métaphysique, toutes ces grandes questions, et il faudrait qu'elles reviennent au goût du jour. Bon, là, j'en appelle pas à la peste, mais en tout cas, une forme de cruauté qui fait qu'il faut accepter d'affronter les questions qui font mal, sans aller à la consolation ou au fait qu'on trouve du sens très très vite. Voilà, c'est ça la première étape difficile.
Alexandre Lacroix.
Alors,
il y a une phrase... Donnez-moi de vous réveiller. Hein.
Il y a une phrase de l'Ecclésiaste que j'aime bien qui dit « Qui augmente sa lucidité ajoute à sa souffrance ». Donc j'approuve cette première étape difficile ou douloureuse. Alors je dirais que si on veut traiter des vertus thérapeutiques de la philosophie et des vertus thérapeutiques pour le corps, il faut faire un détour. Ludwig Wittgenstein est le dernier grand philosophe au XXe siècle à vraiment avoir assigné une visée thérapeutique à la philosophie. Alors après tout, c'est un peu décevant ce qu'il dit, c'est une thérapie du langage, la philosophie. Mmh. C'est-à-dire que son remède, c'est la clarification conceptuelle. Alors quand je vous dis ça, vous vous dites clarifier les concepts, faire des distinctions justes entre les idées, ça va pas m'aider physiquement. Eh bien, je crois que si, et que je peux faire retour sur la question de la maladie avec ça. Il y a quelqu'un à qui j'aimerais bien rendre un bref hommage, qui s'appelle Ruvénogien.
On va en parler tout à l'heure.
Ouais.
Je suspends ce que j'ai à dire là-dessus, mais je crois que dans la manière dont il a regardé sa propre maladie, et je développerai plus tard, il l'a fait en philosophe, et ça l'a accompagné, et par clarification conceptuelle.
Reste encore trois hommes. Ça y est, t'as plus rien à battre.
Tu cherches le second souffle. Tu sais qu'il est quelque part, mais je te le laisserai pas. Tu veux ce titre? Tu veux porter la couronne? Nez cassé, mâchoire explosée, défigurée. Tu es prêt? Tu es sûr? Parce que tu es face à un homme qui est prêt à mourir plutôt que de te laisser gagner.
Alors Guimette, vous avez pensé à un film ce matin, un film de boxe, Ali de Michael Mann.
Ali de Michael Mann, c'est vraiment là pour le coup, le corps dans évidemment tout son combat. Vous disiez tout à l'heure que la vie n'était pas un sport de glisse. Effectivement, la vie est vraiment un sport de combat. Et là, on l'a pendant 2h20 sur un écran. C'est 10 ans de la vie donc de Cassius Clay, qui d'abord a une première médaille de champion du monde. Et ça va être les 10 années qui vont après le mener au combat absolument mais légendaire, mythique, contre George Foreman à Kinshasa. Et ça va être la progression comme ça d'une bête de scène, d'une bête de ring, et aussi de la progression en fait philosophique de cet homme. C'est ça qui est intéressant, c'est que plus le corps devient sportif, devient un corps de combat, plus aussi cet homme se façonne philosophiquement. Il décide d'être musulman, il va être en lutte contre un pays entier. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que le corps et l'esprit deviennent tous les deux des machines de lutte. Et le film le montre très très bien, le film de Michael Mann, puisque on est vraiment évidemment dans le corps de Will Smith, dans le corps du boxeur, dans les cordes, le corps du boxeur à l'entraînement, la souffrance, etc. Mais on est aussi dans le corps du boxeur qui danse, puisqu'il y a énormément de musique, il y a quelque chose de très africain revendiqué dans ce film, et on est aussi dans la construction mentale, quand même d'un héros moderne. Et moi, je veux citer, en fait, puisque finalement, c'est exactement la définition, enfin, je pense, de la philosophie du combat, je veux citer le discours, enfin, la phrase que Mohamed Ali avait donnée avant ce qu'il avait appelé cette bagarre dans la jungle, c'est-à-dire ce combat incroyable à Kinshasa. Regardez, écoutez-moi ça. Pour ce combat, j'ai lutté avec les alligators, je me suis battu avec une baleine, j'ai mis les menottes à un éclair, j'ai jeté le tonnerre en prison. Vous savez, je suis mauvais, j'ai tué un rocher, blessé une pierre, envoyé une brique à l'hôpital. Je suis si méchant que je rends la médecine malade. Je suis si rapide que je peux traverser un ouragan sans me mouiller. Quand il me verra, George Foreman paiera sa dette. Je peux noyer une gorgée d'eau et tuer un arbre mort. Attendez et vous verrez. Mohamed Ali.
Merci beaucoup Guimette. Alexia Rivière, Lorraine Bess et Clara Marlieu m'ont aidé à préparer cette émission et c'est réalisé par Claire Destacan.
Oh mais c'est encore vous mon cher. Oh mais c'est encore vous mon cher. Me dit-elle tout à coup. Me dit-elle tout à coup. Oh, je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Lavons-nous de la boue. Lavons-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions tout. Et oublions tout. Et tenons-nous debout dans la lumière. Et tenons-nous debout dans la lumière. Soyons prêts à tout, soyons prêts à tout. Il en va de la vie de nos mères. Il en va de la vie de nos pères. Il en va de nous, il en va de nous. Moi je me sens de vous prisonnière. Oh je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous.
Stéphane Echer interprété prisonnière.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et ce matin, on se demande si la philo peut nous aider à surmonter certains maux qui affligent notre corps, avec Laurence de Villers, qui publie un ouvrage passionnant, Guérir la vie par la philosophie, et avec le directeur de Philosophie Magazine, qui a fait beaucoup de bêtises quand il était ado, Alexandre Lacroix. Laurence de Villers, j'ai l'impression que pas mal de philosophes se rêvent comme des médecins. Je pense notamment aux philosophes grecs, mais aussi au plus célèbre des philosophes allemands, Nietzsche.
Oui. Alors, pour les Grecs, vous avez raison, en quasi-majorité. Ils se rêvent pas, ils se voient concrètement, c'est pas une métaphore en fait, voilà, c'est pas une métaphore. Quand la philosophie se définit comme médecine, c'est pas pour donner une image, c'est parce que c'est réel, c'est efficace. Les grandes écoles de la philosophie, stoïcisme, épicurisme, cynisme, scepticisme, ne veulent pas nous sauver. Ça, c'est le christianisme qui va infléchir la philosophie dans le sens d'un salut. Jusqu'à un philosophe qui ne se veut pas chrétien, comme Spinoza, mais qui voit quand même la philosophie comme quelque chose qui nous sauve. Chez les Grecs, elle nous guérit. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Notre rapport au réel, la plupart du temps, notre rapport à la réalité est pathologique. On veut ce qui ne peut pas arriver, on nourrit des désirs vains, on souhaite être autrement, on veut ne pas mourir ou on a peur de mourir, donc il y a un rapport pathologique au réel, et la philosophie le rectifie, c'est l'orthopédie, et encore une fois, c'est pas une métaphore, il y a quelque chose qui ne va pas et qui nous rend malade, et Sénèque, Marc Aurèle, Épicure, Épictète, et jusqu'à Nietzsche, qui a repris cette définition ancestrale de la philosophie, veulent nous en guérir.
Mais justement, vous écrivez une chose a priori déprimante, vivre est en soi une maladie dont il faut nous guérir. Oui, mais guérir de quoi ?
Oui, alors c'est apparemment déprimant, ça veut dire que vous pensez que dans le fond ça l'est pas, donc je vous ai au moins convaincu. Je pense qu'il y a deux erreurs symétriques dont on peut souffrir, et particulièrement de nos jours. C'est l'erreur de la consolation, qui est toujours trop hâtive, et qui veut tout de suite nous consoler et montrer que l'échec n'en est pas un, que la vie a du sens, que souffrir nous rend plus fort, que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. C'est faux, ce qui nous tue pas nous tue. Et l'autre erreur, c'est celle de l'héroïsme. J'ai rien contre la boxe, je pense que c'est un sport héroïque. Mais la vie n'est pas un sport et ne demande pas de l'héroïsme. Par exemple, dans la maladie, on dit aux malades qu'il faut qu'ils luttent, qu'ils se battent, etc. Et cette métaphore guerrière, sportive, héroïque est une autre erreur. Et je pense que la philosophie, en apparence déprimante parce qu'elle nous dit que la vie ne va pas de soi et que vivre en soi est déjà une maladie, parce que précisément ça va pas de soi et qu'on doit consentir à plein de choses arbitraires qui n'ont rien demandé, elle évite, et c'est en cela qu'elle est en apparence déprimante, elle évite l'erreur de la consolation, trop hâtive et donc fausse. Et l'erreur de l'héroïsme, on n'est ni à consoler, ni des héros.
Et face à la vie, on a deux choix selon vous, désespérer ou bien oser être soi.
Oui, désespérer ou espérer en réalité. Désespérer n'est pas le bon choix, mais on peut en passer par cette première étape difficile de cruauté et de lucidité. Qui est désespéré de trouver un sens à ce qui n'en a pas ? Il n'y a pas de sens à la souffrance. Enfin, je pense que c'est à la fois insultant et dangereux de vouloir trouver un sens à la souffrance.
On va y revenir dans quelques minutes, mais pour vous, le grand problème qui se pose à nous tous, c'est d'accepter ceux qui ne demandent pas notre consentement. On n'est peut-être pas maître de son destin, mais on peut en tout cas être maître de nous-mêmes.
En tout cas, on peut mettre du savoir-faire d'une certaine façon dans quelque chose qu'on est par hasard. Enfin, la tête qu'on a, encore une fois, c'est par hasard. Alors, il y a la génétique, mais quand je me lève le matin, je pense pas à la génétique. Je me vois dans la glace et c'est pas toujours heureux. Donc, je pense qu'il faut mettre de soi dans ce qu'on est par hasard et de façon arbitraire.
Alexandre Lacroix.
Oui, alors, D'abord, moi, je dirais, la première chose, si vous tombez vraiment malade, que ce soit physiquement ou psychiquement, allez voir un médecin. Je dirais, non.
Ah c'est, oui, c'est... attends, je ne dis pas, ne voyez que des philosophes.
Non. C'est-à-dire, voilà, les consultations philosophiques, il faut peut-être mettre ça à plus tard. Cela étant dit, il y a quelque chose d'important, je trouve, dans ce que la clarification conceptuelle peut apporter quand on est malade. C'est-à-dire le fait d'essayer d'y voir clair. Et notamment, il y a une, moi je pense qu'il y a, une pente dangereuse qui est de considérer, notamment dans le cas du cancer, parce que chaque type de maladie développe ses métaphores, ses mythes en fait. Et dans le cas du cancer, il y a un mythe qui a été largement généré par Fritzhorn, selon lequel ce serait une sorte de maladie psychosomatique.
Oui, on se fait,
et donc ce serait de votre faute, ce serait à force de frustration, parce que vous vivez mal, que vous êtes tombé malade. Il peut être intéressant philosophiquement d'essayer de clarifier les choses et de considérer la maladie comme une maladie et non pas, à travers ses métaphores ou les mythes qui l'accompagnent. Et donc, d'avoir une vision de la maladie qui est sèche, qui ne redouble pas la souffrance d'un accablement psychologique qui serait dû au fait qu'on se sent frustré ou on s'accuserait d'avoir mal vécu en plus du fait d'être malade.
Alors pour aller dans votre sens, je vous propose d'écouter le philosophe ruénogien décédé le 4 mai 2017 et qui avait publié un merveilleux livre que je vous recommande vraiment, « Mes mille et une nuits, la maladie comme drame et comme comédie ».
Le dolorisme, c'est une idée qui est à l'arrière-fond d'un concept qui est devenu extrêmement populaire aujourd'hui, qui est l'idée de la résilience. C'est cette idée qu'au fond, lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes malade, c'est une sorte d'épreuve, un défi dans lequel vous pouvez gagner ou perdre au fond. Mais si vous gagnez, vous gagnez beaucoup, c'est-à-dire que vous devenez beaucoup plus lucide sur vous-même, beaucoup plus compatissant envers les autres. Donc il y a un bénéfice intellectuel et moral au fait d'être malade. Il y avait une autre idée j'avais envie aussi de discuter, c'était cette idée que la maladie n'a pas simplement des causes, c'est des causes physiques, mentales, mais on peut aussi lui trouver des justifications morales. Je dirais qu'il y a tout un courant religieux qui pense que la maladie n'a pas simplement des causes, mais elle a aussi des raisons. C'est-à-dire une justification, peut-être la punition pour un châtiment, ou ce qui s'est passé dans une autre vie, etc. Voilà les deux idées que j'avais envie de contester, de discuter. Donc cette idée que la maladie est quelque chose qui peut nous enrichir, nous faire du bien. Et l'autre idée, c'est que la maladie n'a pas simplement des causes, mais elle a aussi des grandes justifications.
Ruénogien, au téléphone sonne le 16 février 2017. Laurence de Villers, vous souscrivez des deux mains.
Ah, je souscris et je souscris avec une forme de véhémence. Et je pense que c'est le rôle aussi de philosophe de l'envergure de Ruénogien, c'est de bannir des modes conceptuels, des morales, des religions qui sont laïques en réalité. Et il y a une religion du sens à tout prix, du positif à tout prix, et d'être sain. Et qui implique que donc le malade a fait quelque chose qui n'allait pas, donc il s'est fait son cancer. Et il doit se battre. Et je trouve que c'est à bannir avec fermeté.
Pourquoi ?
Parce que la souffrance n'a pas de sens. Il faut pas chercher du sens à tout prix à ce qui n'en a pas. C'est insulter notre souffrance et c'est ne pas y trouver de remède. Je pense que les remèdes qu'on propose qui n'ont pas assumé, regardé dans les yeux la souffrance ne sont pas des vrais remèdes. La maladie n'a pas de sens. Elle nous accapare tout entier. Elle a une transcendance, en fait. Elle nous accable. Au sens où c'est un mur qui vous tombe dessus, mais comme la rupture amoureuse ou le deuil. Et c'est faire insulte à ce négatif de la perte, du deuil, de la maladie, que d'essayer de le positiver ou d'y trouver un sens ou des raisons. Et je pense que cette religion du sens à tout prix, du positif et du fait d'être sain, fait des ravages parce qu'en fait, elle nous rend démunis face à la souffrance.
Guillemette Audicino.
Oui, je suis d'accord. Il y a un mépris croissant pour en fait la faiblesse, la fragilité. Il faut de toute façon se battre. Il faut gagner. Il faut être dans la résilience absolue. Autrement, en fait, on est en situation d'échec. C'est absolument atroce. Et puis de faire rimer en fait fragilité ou même faiblesse, qui peut aussi être une belle chose. Parce qu'être faible, c'est aussi, enfin, être perméable, recevoir. Recevoir aussi, mais les stridents de la vie, mais c'est peut-être aussi important de le sentir. Donc,
ou alors,
ce mépris absolu sur
ni l'un ni l'autre, guillemets, pardon, ni faible ni fort. Il faut accepter, tu parlais de sécheresse, cette nudité.
Oui, mais accepter pardon, d'être souffrant.
Souffrant, on n'est ni faible ni fort, on est souffrant. On est souffrant, on n'a pas non plus à faire, je pense, cette apologie de la vulnérabilité et de la faiblesse, parce qu'on préférait un corps qui ne nous échappe pas, qui ne se dérobe pas, qui ne s'abîme pas. Je pense que, alors c'est peut-être pas
mais
beaucoup...
Mais l'accepter, en tout cas pas l'apologie, mais accepter...
En tout cas, le regarder en face.
Le regarder en face.
Le regarder en face, c'est ni faible ni fort, malade.
Vous voyez, Alexandre Lacroix.
Ruvenogien, la manière dont il traite sa situation de malade, puisqu'il souffrait d'un cancer, quand on l'a entendu parler, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des distinctions. Il dit « j'accepte la maladie, c'est un fait, je refuse le dolorisme. Mmh. » C'est-à-dire, je refuse de me plaindre ou d'en faire une tragédie. D'ailleurs, c'était le premier titre de son livre qui est devenu « Mes mille et une nuits », c'était « La maladie sans la tragédie ».
Oui, sans la tragédie.
Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une deuxième distinction. Il dit « j'accepte que la maladie ait des causes physiologiques, je refuse qu'elle ait des raisons. » C'est-à-dire que je refuse l'idée que je doive, par une introspection, aller chercher dans mon enfance ou dans mes sentiments la raison de ma maladie. Et ça... C'est une forme de thérapeutique philosophique.
Laurence de Villers, pour vous, face à la souffrance, face à la maladie, face à la douleur, la seule chose qu'il nous est possible de faire, c'est d'écouter la plainte de ceux qui souffrent. Plainte ne veut pas dire jérémiade ni pleurnicherie.
Voilà, exactement. La plainte, pas au sens de la complaisance, qui fait que finalement on trouve plus de facilité à être victime et abattu qu'à être soi. C'est Montaigne. Alors. Je trouve qu'il y a une défiguration de Montaigne de nos jours. On veut en faire un joyeux luron, voilà, très un bon vivant, une sorte de bon vivant qui vous tape sur l'épaule. Donc Montaigne est plus agressif qu'on l'imagine. Et puis il a cette phrase qui me semble fondamentale. Il dit il faut favoriser et seconder la plainte. C'est-à-dire qu'il faut l'entendre. Et l'entendre, c'est pas seulement pour consoler. C'est l'entendre pour ne rien dire. Ce que la philosophie dit, et ce que Montaigne me semble vouloir dire, c'est que l'échec et la souffrance ne sont pas des expériences transitives. Ça ne mène pas à quelque chose d'autre. On y est en plein dedans. Et donc entendre la plainte, c'est non pas dire « il n'y a pas d'avenir, t'es foutu », mais c'est pas consoler non plus qui nous arrime au présent. C'est dire « oui, j'entends, tu es dans cette situation ». Et c'est du négatif.
Guillemette Odissino.
C'est fou comme c'est politique et contemporain ce que vous êtes en train de dire, je trouve. Enfin, l'écoute de la plainte et sans forcément mentir sur une consolation possible.
Voilà,
non,
exactement.
Mais c'est incroyablement
mentir
moderne.
Mentir sur une consolation possible.
C'est, ouais. C'est exactement, c'est savoir écouter et ne pas forcément dire qu'on va résoudre le problème, qu'on va rendre les gens plus heureux, mais au moins les entendre vraiment.
Alexandre Lacroix.
Il y a un beau roman autobiographique de Patrick Declercq où il parle aussi de son cancer qui s'appelle Socrate dans la nuit. Et dans ce livre, il y a un passage que j'adore où il cite une étude australienne. Ils ont pris un échantillon de personnes qui étaient malades, qui avaient la même maladie, hein, de 300 personnes qui étaient malades, un cancer, et qui étaient vraiment, qui déprimaient, qui voyaient le monde en noir, qui étaient pessimistes, qui étaient nihilistes, qui vraiment broyaient du noir dans leur maladie. Puis ils en ont pris le même nombre, qui, eux, positivaient, luttaient, avaient changé leur diététique, leur régime alimentaire, faisaient du sport, etc. Et à la fin, ils comparent les deux échantillons et ils tombent sur le même taux de mortalité.
Merci pour ce message d'espoir, Alexandre.
Donc c'est pas la peine
Lacroix.
De s'emmerder à positiver.
Dans quelques instants, nos invités nous diront en quoi la philo peut nous aider à vieillir. Nous attendons vos questions et réactions sur notre page Facebook. À suivre la fausse pub du vendredi de François Audouin.
Soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. I'm a young soul in this very strange world.
I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and love feel, finding myself making every possible mistake.
Yael Naïm, New Soul.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Après les succès d'Épicure 500 vous permettant de faire 10 repas par jour sans ballonnement ni prise de poids, Spinoza 200, notre inhibiteur de culpabilité, les laboratoires Larron vous proposent Philonium 3000 Flash, un nouveau médicament révolutionnaire capable d'agir sur n'importe quelle souffrance physique ou mentale. Une huile essentielle d'Heidegger pour une angoisse existentielle, une substance active de Kant pour une douleur morale ou encore un complément vitaminé de Nietzsche pour recouvrer sa volonté de puissance. Grâce à sa particule de philosine active combinée à des extraits de cervelas de prof de philo mort irradié, un seul comprimé de Philonium 3000 Flash soulage rapidement les maux de votre corps et de votre esprit avec la molécule adéquate. Avec Philonium 3000 Flash, retrouvez sagesse et vitalité en un instant. Attention, Philonium 3000 Flash est un médicament et peut comporter des effets secondaires irréversibles.
La fausse pub de François Audouin avec la voix d'Éric Oswald. Et ce matin, on se demande si la philo peut nous aider à surmonter certains maux qui affligent notre corps avec Laurence de Villers, qui a publié en 2017 « Guérir la vie par la philosophie » et avec le directeur de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix.
Esclave du miroir magique, parle !
Que veux-tu voir, ma reine ?
Miroir magique au mur. Qui a beauté parfaite et pure ?
Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loque, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est, hélas, encore plus belle que toi.
Décris-la-moi. Apprends-moi son nom.
Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige.
Blanche-Neige.
Un extrait de Blanche-Neige de Walt Disney en 1938 avec une Guillemette Odissino qui connaît les répliques par cœur et qui porte un t-shirt Blanche-Neige.
Oui, absolument. Je ne l'ai pas fait exprès, Ali, mais je suis tellement contente de cette coïncidence.
Mais
je porte
émission.
Un t-shirt Blanche-Neige et pas un t-shirt sorcière. Hein, je tiens à le préciser.
Alors, se regarder tous les matins dans le miroir, c'est constater tous les matins les ravages du temps. Laurence de Villers, vous écrivez une chose qui met du baume au cœur. Vieillir, c'est un peu comme une mort qui surviendrait chaque jour, mais de façon insidieuse, sans bruit ni douleur, sans qu'on en ait vraiment conscience, jusqu'à ce qu'on se réveille un beau jour, vieux, fatigué, usé. Et pour enfoncer le clou, vous citez Ronsard, le vrai trésor de l'homme est la verte jeunesse, le reste de nos ans ne sont que des hivers. Et j'aimerais apporter ma petite touche personnelle avec Shakespeare. Lorsque 40 hivers assiégeront ton front et creuseront des tranchées profondes dans le champ de ta beauté, la fière livrée de ta jeunesse, si admirée maintenant, ne sera qu'une guenille dont on fera peu de cas. Voilà, ça met du baume au cœur avant le week-end.
Donc
Laurence
la marade dépressive, c'est moi. parce que la vieillesse est une expérience de la pauvreté, au sens fort. On se décharne, même si certains grossissent. Hein. On ôte, on fait l'expérience de quelque chose qu'on a perdu, qu'on n'a plus, et on a peu de ressources. Et en réalité, on est tous des marâtres, donc je suis pas la seule. Et on a tous une blanche neige, une jeune fille en loque, et pourtant avec tant de grâce, c'est celle qu'on a été, qu'on s'est rêvé. En tout cas, la jeunesse, c'est pas seulement un âge de la vie qu'on a perdu, c'est un état.
c'est une manière d'être. Ce qui fait qu'on peut être vieux très jeune et qu'on peut être jeune en étant vieux. Donc à la fois cette expérience de pauvreté, et Simone de Beauvoir, je crois que c'est son meilleur livre en fait, sur vieillir, sur la vieillesse, elle dit, je me regarde éberluée et je me dis, c'est moi. Et en fait, c'est moi et c'est pas moi. C'est ça, la vieillesse. Et elle dit, vous voyez, c'est pire que moi, en fait, hein. Elle dit, c'est une vérole dont je guérirai jamais. Entre parenthèses, ne pas instrumentaliser la philosophie pour en faire des cachets, nouvelles formules, c'est accepter, qu'il y aura pas de guérison. Et je pense que le remède, du coup, doit être assez massif.
Quel est le remède, d'ailleurs?
Mais, pardon, comment on fait le deuil de soi?
Ben voilà, c'est un deuil de soi. Ah ben on en rajoute en fait, je pensais que j'étais déjà trop triste.
Ben c'est ça quand même.
Ah mais c'est un deuil de
soi. Avant que les autres fassent le deuil de nous, on fait le deuil de soi.
On fait le deuil de cette jeune fille, de cette Blanche-Neige qu'on sera plus jamais, tout en restant soi. C'est ça qui est difficile, c'est que je me regarde, c'est bien moi. Parfois j'ai même pas conscience que j'ai vieilli, et c'est quand on me voit qu'on se dit oh, elle a pris un coup de vieux.
Oui, mais que peut la philo pour affronter le vieillissement? Vous conseillez d'inaugurer des commencements. Ouais.
Alors, il y a des pages d'Hannah Arendt qui me semblent décisives pour guérir du vieillissement. Elle parle de cette capacité que nous avons à la natalité, à inaugurer du nouveau. Et alors, elle montre que ça peut être des commencements très modestes, très timides, très fragiles, humbles. En fait, il y a une humilité des commencements. Et il faut un peu chaque jour pour lutter contre l'inertie. En fait, la vieillesse, c'est une expérience de la pauvreté et de l'inertie. On ne s'arrête pas, on piétine. Et on s'en poussière, en fait. Et elle dit qu'il faut, dans l'action, encore une fois, la plus modeste qui soit, inaugurer du neuf, du nouveau.
Par exemple
Mais par exemple, faire quelque chose qu'on n'aime pas faire, ou qu'on ne fait pas, ou qu'on n'a jamais fait. Je ne sais pas, vous aurez remarqué que je ne m'habille pas vraiment en rouge. Pour moi, ça serait... C'est humble, hein. Mais pour moi, ça serait peut-être... essayer une fois de m'habiller autrement.
Alexandre Lacroix.
Oui, moi je dirais qu'on a quand même une chance assez extraordinaire. J'ai commencé par parler de ma grand-mère, je vais reparler d'elle. Elle est née en 1910. Elle est née en 1910, elle avait à sa naissance comme espérance de vie 53 ans. Elle en a vécu 95. Au XXe siècle, s'est ouvert un nouveau paysage en fait que nous sommes les premières générations d'humains à découvrir. C'est-à-dire que nous ne savons pas ce que c'est que d'avoir plus de 50 ans ou plus de 60 ans et d'être encore pour plusieurs dizaines d'années peut-être en bonne santé avec ce corps qui évolue, mais on peut être encore lucide assez longtemps. On est en train de le découvrir et moi je suis très attentif à ce qui se passe du côté de la littérature. Alors ça, c'est mon goût pour le roman qui le fait. Je pense que les romanciers sont les premiers à tenter des descriptions. Philippe Roth l'a fait, par exemple, mais d'autres aussi. De ce nouveau paysage du vécu humain qu'on découvre, de la condition humaine qu'on découvre. On est en train de découvrir un paysage neuf. Au lieu de se lamenter du vieillissement, on pourrait tout à fait retourner les choses. Vous seriez né en 1910, vous seriez mort à 50 ans. Vous avez peut-être 30 ans de vie en bonne santé en plus. C'est un cadeau immense que nous a fait la science et que nous a fait le progrès de la civilisation.
Mais t'as plus la même tête quand même.
Oui, mais ça c'est...
d'accord. Attends, tu peux pas le mettre de côté. T'as quand même plus la même tête.
Il y a quelque chose à découvrir pour nous et nous sommes les premières générations d'humains à le faire. Voilà.
Guillemette Odissi.
Non, mais dans ce champ des possibles dont parle Alexandre, même si on n'a plus la même tête, les gens aussi ne nous regardent plus de la même manière. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout de même, à 50 ans, on peut, un homme, ça c'est, on a toujours regardé les hommes de 50 ans comme des beaux mecs. Bon, ça c'est quand même une injustice,
C'est une injustice.
Aujourd'hui, grâce à ce que dit Alexandre, on regarde aussi des femmes de 50 ans comme de belles femmes. Ça va de plus en plus loin. Donc, ce champ des possibles de quand même du.
Je crois que ça changera rien.
Sur les femmes, je vais vous dire quelque chose d'amusant. C'est Garcia Marquez dans un roman comme ça. On interroge un personnage sur sa femme. Il dit, mais comment moi faire l'amour à cette vieille femme de plus de 60 ans? Toute ridée, grosse, bouffie, qui a de la moustache et tout. Non, je fais pas l'amour avec cette femme. En fait, quand je lui fais l'amour, je fais l'amour avec la jeune femme que j'ai connue quand elle avait 18 ans. Je fais l'amour avec celle que j'ai épousée quand j'avais 27 ans. Non, mais c'est la même, en fait, puisqu'il a vécu avec elle et qu'il a vieilli avec elle. Mmh. Et qui dit que je fais l'amour avec ma femme à tous les âges qu'elle a eu chaque fois que je lui fais l'amour. C'est une manière assez belle de voir les choses.
Et ce matin, on se demande si la philo peut nous aider à surmonter certains mots qui affligent notre corps. Avec Laurence de Villers, qui a publié en 2017 Guérir la vie par la philosophie, et avec le directeur de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix.
Les jours de ma vie s'en vont, sans que j'ai pu retenir le son. Je sais que l'amour est là, infiniment troublant, attendant d'être vu. Quand viennent les coups de grisou, la vie demande. Thank you.
Véronique Sanson interprétait « Doux dehors, fou dedans ».
Ali Rébéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Et ce matin, on se demande si la philosophie peut nous aider à surmonter certains maux qui affligent notre corps avec Laurence de Villers, qui a publié en 2017 « Guérir la vie par la philosophie » aux éditions des PUF, et avec le directeur de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix.
Quand je suis amoureuse, je vis une très belle histoire avec ma pizza. Mon Greg, t'es en froid avec la tienne, qu'est-ce qui se passe?
Je peux pas.
Mais comment ça? C'est la pizza Margherita à Napoli. Tu as le devoir moral de manger et de savourer cette pizza.
J'en ai envie, mais j'ai pris quelque chose comme 5 kilos et je me retrouve avec ce... juste là au niveau des hanches, tu sais, comment t'appelles ça déjà?
Des poignées d'amour. Moi aussi j'en ai. Je peux poser une question? Durant toutes ces années où il t'est arrivé de te déshabiller devant un monsieur, il y en a déjà eu un qui t'a planté là et qui est parti?
Non.
Parce que ça leur est égal. Ils sont dans une chambre avec une fille nue, ils ont gagné le gros lot. J'en ai tellement marre d'essayer de dire non, de me réveiller le matin et de faire la liste du moindre truc que j'ai avalé la veille. De compter la moindre calorie que j'ai consommée pour connaître exactement le poids de la honte que je traînerai sous la douche. Je me lâche maintenant. J'ai pas envie d'être obèse, culpabilisée non plus. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais finir cette pizza. Ensuite, nous avons un match de foot à voir. Et demain, on se retrouvera toutes les deux. Et puis on ira s'offrir un jean plus large. Giovanni aime les poignées d'amour.
Un extrait du film Mange, prie, aime de Ryan Murphy. Alors, au commencement de la vie, eh bien, il y a la grande loterie du physique, hein, qu'on accepte comme Julia Roberts dans l'extrait, ou que l'on n'accepte pas. Que peut faire la philo quand on hérite d'un physique banal, voire ingrat, ou un physique qui a grossi? Que peut la philo?
En tout cas, c'est rare d'être Julia Roberts et de faire de la philo, donc je pense qu'elle a pas grand-chose à faire pour accepter son corps. Mais que peut la philosophie? Alors, en entendant l'extrait, je me suis dit que la philosophie était une entreprise de lutte contre la culpabilisation. Parce que paradoxalement, les psychologies ou les recettes ou les religions de la consolation et du sens à tout prix nous culpabilisent. Parce qu'elles nous disent que c'est à portée de main, que le négatif peut être du positif, que c'est pour demain ou tout de suite. Et quand on n'y arrive pas, on est absolument coupable. Enfin, quand on est capable, on est forcément coupable. La philosophie, en disant que la souffrance est souffrance, que le négatif est négatif, elle écarte, je pense, efficacement la culpabilisation. Et je trouve que c'est déjà un remède en soi.
Et dans votre ouvrage, vous conseillez une chose un peu saugrenue, se confronter au regard de son animal de compagnie, de se mettre nu face à son animal de compagnie, comme le philosophe Jacques Derrida avec son chat. Oui. Pourquoi?
Alors, je tiens à dire que c'est Derrida qui le fait pour qu'on n'imagine pas que vous avez invité, en plus d'une marade, quelqu'un qui fait des expériences un peu voilà singulières avec son chat. Alors, Derrida, bon, c'est Derrida, donc c'est très surprenant dit comme ça. Il dit qu'il sort de la douche, il est nu et il est face au regard de son chat. Il fait un cogito, en réalité. Il fait du Descartes postmoderne. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est très difficile, ou très rare, en réalité, dans sa journée, dans sa semaine, voire dans sa vie, de se dire qui suis-je. En fait, on passe sa vie à être ce qu'on est et on se pose très rarement la question. Et quand on donne des réponses, elles sont trop rapides. C'est mon état civil, mère de 4 enfants, etc. Bon, bref. Et donc, on rate cette question fondamentale qui est qui suis-je. La difficulté, donc, c'est que on apporte trop de réponses presque toutes faites ou faciles à cette question. C'est-à-dire qu'on habille ce qu'on est de plein d'identités qui peuvent être des masques. Et Derrida dit, il y a une expérience incomparable, originale, unique et dérangeante. C'est de se retrouver nu face à son chat. Enfin, son chat, ou si c'est un hamster, j'imagine que ça peut marcher. Enfin, pourquoi? Parce que face à l'animal, nous ne sommes pas dans une relation de communication ou de langage. Il peut y en avoir, on anthropomorphise son chat, mais il n'y en a pas. Il me regarde, il fait rien. Et donc, je suis mise à nu. Je suis nue. Parce que, alors on parle du culte des apparences, parce qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a un refus des apparences. On n'arrête pas de s'habiller, de se masquer, etc. Face au chat, il n'y a rien. Il y a moi. Et là, je fais l'expérience de qui suis-je.
Et ça parle à Guillemette Odissino, l'amoureuse des chats.
Oui, et ben écoutez, comme Derrida.
Allez, vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
She
that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Stale Christianity, I never heard the words. Enemies for centuries until there was a third. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Diego Garcia, surrounded by the waves, lonely in the ocean, but in every other way, it was full of love. In the warmest bed of feeling. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. I didn't have your sympathy, but I know where to start. Explaining to you patiently that the one who broke my heart would have broken yours. You throw the pieces in the river. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go.
Vampire Weekend, interprété Sympathie.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Laurence de Villers, je rappelle que vous avez publié « Guérir la vie par la philosophie ». Alexandre Lacroix, vous êtes le directeur du mensuel Philosophie Magazine. Parlons de la vie quotidienne, Laurence de Villers. Parce que
le premier des mots.
Oui, non, parce que dans la vie quotidienne, notre corps, notre âme est mise à épreuve par ce que vous appelez un monde décoloré.
Alors, d'abord, la vie quotidienne, c'est la vie tout court. C'est surprenant comme on a besoin d'ajouter des adjectifs, des qualificatifs à la vie, alors que la seule vie qui nous soit donnée à vivre, c'est quand même celle de tous les jours. En fait, c'est la vie. Et on peut faire le reproche à certains philosophes, quand ils parlent de la vie, ils parlent d'une autre vie. La vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est...
Qui rime avec répétition, habitude, insignifiant, routinier.
Insignifiant, routinier, décoloré. C'est-à-dire que, pas seulement à force d'habitude, parce que c'est répétitif, c'est le même chemin, c'est les mêmes collègues, etc., etc. Donc, ça finit par se décolorer. C'est une vie qui peut être réduite à quelques traits. En fait, c'est de l'abstrait. C'est plus du figuratif. C'est ce chemin-là, c'est un trait, une droite. Ça devient une vie géométrique en réalité qui donne le sentiment d'une vie pas habitée. Paradoxalement, la vie quotidienne prend la forme d'une vie qui est pas habitée.
Comment redonner des couleurs à cette vie quotidienne décolorée? Vous recommandez, par exemple, de prendre des habitudes brèves, à la manière de Nietzsche. C'est quoi les habitudes brèves?
C'est la solution de Nietzsche pour la vie quotidienne. Parce que ces habitudes brèves, elles évitent à la fois l'espèce de frénésie des plaisirs ou de pimenter la vie où on serait sans cesse en quête de mettre des couleurs et trop de couleurs tue les couleurs. et la maladie de la répétition, donc de l'absence de couleur. Donc chez Nietzsche, qui est un remède que je trouve assez fascinant, c'est d'avoir des habitudes, parce qu'il dit « sans habitude, ma vie serait une Sibérie, elle serait glaciale ». C'est le cas, je dirais, on serait pendu en l'air comme ça, sans rien, la vie quotidienne serait invivable. Mais il faut qu'elle soit brève. C'est-à-dire que on adopte des habitudes qu'on va répéter, ce sont vraiment des habitudes, et on se dit « ça y est, j'ai trouvé le bon moyen de mettre de la couleur à ma vie », mais il faut en changer. Parce que les habitudes finissent par paralyser. Elles deviennent tétraplégiques, elles nous enferment. Donc il faut en avoir pour éviter ces vies suspendues ou la frénésie des listes de plaisirs et savoir en changer. Donc c'est un remède quelque part dans le gai savoir que je trouve assez
efficace. Je prends un exemple, quand on suit un parcours quotidien, changer de trottoir par exemple. On change de perspective.
Vous avez dû le faire apparemment.
Bah oui, ou changer de chemin. Non mais c'est des choses très simples, hein, mais qui... Alexandre Lacroix.
Oui, en fait, c'est toute la question de... Moi, j'aime bien les auteurs de la période situationniste et j'aime bien leur idée d'essayer de construire des situations. Ça va avec une forme d'insurrection artistique ou poétique, mais construire des situations. Et dans un joli texte qui s'appelle sur la théorie de la dérive, qu'est-ce que c'est qu'une dérive, Guy Debord dit faut vraiment se méfier du hasard, parce que si on s'offre au hasard, si on laisse le hasard faire les choses, on va retomber dans nos habitudes. C'est-à-dire, si je me dis bon, je vais me laisser porter par le hasard, en fait, je vais faire la même chose qu'hier. Donc il y a un petit effort de volonté pour construire la situation surprenante. Alors pour changer de trottoir, comme vous dites, mais c'est une métaphore évidemment, changer de trottoir. Changer de trottoir dans la vie, il y a un petit effort de volonté, il faut se faire un peu violence, et il faut aussi imposer sa volonté au hasard. C'est-à-dire, c'est changer de trottoir, c'est très volontaire en fait. Voilà, donc construire des situations. C'est
inaugurer des commencements, comme disait Hannah Arendt.
Pourquoi pas. Très bonne conclusion. Merci beaucoup Laurence de Villers. Je recommande vivement votre livre « Guérir la vie par la philosophie » publié au PUF. Merci Alexandre Lacroix, directeur du mensuel Philosophie Magazine. À suivre sur Inter, la bande originale.